Merci, Monsieur Verchev, et merci de m'avoir invité à votre réunion. C'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu incongru à certains que je sois là ce matin, car on me voit plus souvent avec une casquette écologique qu'avec une autre casquette, mais il n'est pas interdit de s'intéresser à un certain nombre de sujets. Et peut-être parce que, comme Arnaud Montebourg, je partage avec lui une profession qui est la même, qui est celle d'avocat, ça fait bien longtemps que je me suis intéressée à ces sujets-là, que je milite au sein de Transparency International, et que la question de la corruption, de l'argent sale, m'apparaît comme une question tout à fait majeure, très occultée. Alors que c'est probablement une des grandes menaces qui pèsent sur les démocraties, une des très grandes menaces qui pèsent sur les démocraties. Ceci étant, il y a un lien entre le combat contre la corruption sous toutes ses formes et les questions liées à l'environnement, puisque c'est un peu ce dont vous m'avez demandé de parler ce matin. Je dirais qu'au moins sur trois thèmes très importants, on voit des liens très étroits. Le premier, c'est le pillage des biens publics. Le second, c'est la question des transports. Et le troisième, c'est les trafics. S'agissant, j'irai vite, hein, puisque c'est la règle du jeu, donc c'est plutôt des têtes de chapitre. Sur les pillages des biens publics, on voit tout à fait que des solutions absolument pas conformes à l'intérêt général, qu'ils soient locales d'ailleurs ou planétaires, sont prises, parce que précisément il y a derrière des problèmes de corruption tout à fait clairs ou de blanchiment, voire même quasiment de mafia. Alors je donnerai trois domaines, pas tout à fait pris au hasard, en commençant par le plus simple, qui est celui de l'utilisation des sols. Les affaires, entre guillemets, que nous avons connues chez nous il y a 20-25 ans, au moment de la décentralisation, précisément dans la gestion des sols et de l'urbanisme, vous pouvez vous dire que ça existe partout dans le monde. Et que tout ce qui est permis de construire, réalisation de grandes opérations, urbanisation et tout le reste, et pas toujours, heureusement, mais très souvent lié à des opérations malhonnêtes, tout simplement. Alors ensuite, on peut dire corruption, on peut dire trafic d'influence, on peut dire ce que l'on veut, mais c'est quelque chose qui se répète, tout simplement, parce que des autorisations sont données alors qu'elles ne l'auraient pas dû, et elles le sont parce que celui qui les donne a un intérêt personnel d'ordre financier à les donner. Voilà. Alors, Dieu merci, c'est pas la généralité des cas, mais ce sont des cas fréquents. C'est vrai chez nous et c'est vrai ailleurs. Le deuxième domaine, c'est celui de l'eau. Vous avez un bouquin qui est sorti là-dessus, qui est, ma foi, assez bien fait, dont je peux vous, si j'arrive à dans mon patras de papier, à retrouver la référence. Bon, alors d'abord, l'ancien monsieur Kandessu, ancien président du FMI, le dit lui-même, hein, le secteur de l'eau est probablement un des domaines où la corruption frappe le plus, on saurait mieux dire. Et effectivement, la manière dont les contrats sont menés, dont les opérations sont montées, dans un certain nombre de cas, là aussi il ne faut pas généraliser, cache en réalité des affaires de corruption. Nous en avons connu un certain nombre, mais il n'y en a pas que chez nous. Et on dit haut, mais on peut dire déchets aussi, d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, mais je reviendrai tout à l'heure plus longuement sur la question du déchet. Et puis, le troisième domaine, je dirais que c'est celui de la pollution. Tout à l'heure, monsieur, je vous entendais avec beaucoup d'intérêt parler de dumping fiscal. Il y a du dumping environnemental. Ça marche du reste souvent ensemble. Et on se rend compte que, bien souvent, nous sommes en face d'entreprises qui ont des comportements parfaitement scandaleux sur le plan de l'environnement et de la santé des gens, que ce soit du reste à l'intérieur d'une entreprise ou à l'extérieur. Ce que les syndicats ne voient pas du reste toujours suffisamment. Et je trouve que c'est dommage que le monde environnemental et le monde syndical ne travaillent pas suffisamment ensemble, parce que dans des affaires comme celle que je vais citer, par exemple, qui est celle de Metal Europe, je pense qu'on aurait pu éviter la catastrophe si effectivement il y avait eu un travail fait beaucoup plus en amont entre les personnes qui travaillaient dans l'entreprise, entre les salariés de l'entreprise et le monde environnant. Et en définitive, les syndicats, et on comprend très bien qu'ils aient voulu défendre leur instrument de travail, en le défendant, ont maintenu un système qui finalement se révèle perdant pour tout le monde, parce que, un, la boîte a fermé, deux, les gamins sont contaminés gravement au plomb, et trois, c'est la collectivité publique qui va payer pour la décontamination. Donc, très franchement, c'est quand même pas tout à fait un succès. Et bien, dans une affaire comme celle-là, comme Metal Europe, on voit très bien qu'il y a eu une pollution organisée grave, extrêmement grave, qu'il y a eu une organisation d'insolvabilité de l'entreprise Metal Europe, puisque les fonds ont été progressivement cédés à une maison mère, que nous avons en France une législation qui ne permet pas de se retourner contre les maisons mères, ce qui est une absurdité, mais c'est une réalité. C'est extrêmement important. Et... Pardon ?
Je disais qu'il y a tellement de choses à faire.
Non, mais ça, c'est tout à fait essentiel. Hein. Et que par conséquent, eh bien, on se retrouve... Alors, je prends l'exemple de Metal Europe parce qu'on le connaît bien, mais vous pouvez prendre des Metal Europe et il y en a... Il y en a énormément. Cette affaire des maisons mères est une question très importante. Alors, le deuxième sujet où on voit ces liens, c'est le transport. Alors, bien sûr, on pense au transport par mer, on pense aux affaires Erika et Prestige, où on voit très bien que derrière les propriétaires de ces navires, voire même, en ce qui concerne le Prestige, derrière probablement les conditions de l'affrètement, se cachent effectivement des organisations dont je ne peux pas dire aujourd'hui qu'elles sont mafieuses, mais dont je peux dire que je ne serais pas étonnée qu'elles en soient proches. Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas la preuve et que je suis quelqu'un qui ne dit les choses que quand il en a la preuve. Mais disons que j'ai une intime conviction. Voilà, on peut dire les choses sous cette forme-là. Et qu'on se rend compte que l'organisation, et ça c'est un point sur lequel je voudrais vous sensibiliser parce qu'il me paraît très important, l'organisation actuelle du transport international repose pour partie, là aussi il faut être raisonnable et pas généraliser, pour partie sur des sociétés qui sont des sociétés au minimum pas claires et pour certaines franchement proches de la mafia. Pour le pétrole, je dirais que pour le transport des hydrocarbures, c'est quelque chose qui a été assez sciemment organisé. À la suite des affaires de la Moco Cadiz et de l'Exxon Valdez. En 1992, tombe en même temps l'affaire de la Moco et l'affaire de l'Exxon Valdez. La Moco Cadiz est connue chez nous parce que effectivement on a ramené de l'argent aux collectivités publiques, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est très important dans l'affaire de la Moco Cadiz, c'est que nous avons gagné aux États-Unis sur l'affaire des maisons mères, justement. Nous avons fait condamner l'arrière-grand-mère, si je puis dire, d'Amoco Cadiz. Amoco Cadiz était un one-ship company, c'est-à-dire un bateau, une société propriétaire d'un seul bateau. Le système était très simple, il suffisait d'y penser. Vous avez un bateau, il sombre, il n'y a plus de société, donc personne ne paye, évidemment, puisqu'il n'y a plus de responsable. Donc Amoco Cadiz était la fille d'Amoco Transport, qui était la fille d'Amoco International, qui était la fille de Standard Oil of Indiana, qui à l'époque était une des sept sœurs. Il n'y avait pas encore eu la restructuration qu'on connaît aujourd'hui des sociétés pétrolières. Et donc le grand succès de l'affaire Amoco Cadiz, c'est d'avoir fait condamner la maison mère. Parce que qu'est-ce qui a payé? C'est Standard Oil et Amoco International. Donc les sociétés pétrolières se sont dit, notre système du One Ship Company, on peut oublier, ça ne marche plus. Dans le même temps, vous avez eu Exxon Valdez, qui lui a été un grand succès financier. C'est-à-dire qu'autant que les Français ont ramené en gros 1,5 milliard de francs de 92, ce qui était bien, mais pas extraordinaire, dire les choses comme elles sont, lorsqu'il s'est agi d'une société, d'un dommage américain, l'évaluation des dommages a été faite de manière bien différente. Et j'ai plus en tête le chiffre, mais il était astronomique. Et du reste, il n'est pas terminé, puisque cette année, il y a eu encore des petits, si je puis dire, qui sont venus se rajouter, payés par Exxon, à la suite toujours de cette catastrophe, parce que il y avait toujours des traces de pollution. Donc les sociétés pétrolières ont dit, bon, plus d'One Ship Company, et on paye la totalité du dommage, ça ne fonctionne plus, nous ne sommes plus transporteurs. Et donc, les sociétés américaines, pétrolières, essentiellement américaines, mais enfin, pas qu'elles, ont abandonné le transport des bateaux. Et ne sont devenues qu'affréteurs. Et elles ont obtenu des États, et c'est pour ça que je me bats contre cette convention, la convention de 1992, qui exonère de toute responsabilité les affréteurs. C'est unique en droit. Il y a une clause dans la convention qui dit, sous aucun prétexte, les affréteurs ne pourront jamais être recherchés en responsabilité. Donc, vous avez un responsable, c'est le propriétaire du bateau, mais il est responsable de manière très modeste. Pour l'Erika, c'était 80 millions de francs, et pour le Prestige, 120. Donc, vous voyez, je parle en francs parce que j'ai pas fait la conversion, mais vous la ferez. Donc, il s'en fout, le propriétaire. Parce que c'est rien du tout. Par rapport, pensez le Prestige, il va en avoir pour, je sais pas, peut-être 10 milliards, 12 milliards de francs. Il y a le montant du plafond de responsabilité, 120 millions de francs. Il s'en fout complètement. Ah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les bateaux ont été rachetés. Ils ont été rachetés pour partie par des gens convenables et pour partie par des gens qui ne l'étaient pas du tout. Les sociétés pétrolières qui sont alors devenues affréteurs et qui n'étaient plus transporteurs ont fait de la pression à la baisse. Du coup, bien sûr. Donc, le transport international d'hydrocarbures a baissé, en gros, de l'ordre de 15% en 10 ans. Ce n'est pas logique. Ça s'est fait sur quoi, ces 15%? Sur le fait que les gens qui travaillaient dessus n'étaient pas payés. Et deuxièmement, sur le fait qu'on n'entretenait pas les bateaux. C'est pas compliqué, hein? Bien. Et qu'il n'y avait aucun risque, puisque pas de responsabilité. Pas de responsabilité pour les propriétaires, pas de responsabilité pour les affréteurs. La vie est belle. Et c'est donc, si vous voulez, la raison pour laquelle, en toute tranquillité, vous avez pu avoir du dumping organisé à la baisse sur le transport de bateaux devenant de plus en plus des poubelles. Alors, comme par-dessus le marché, plus un produit est dégoûtant à transporter, genre fuel lourd numéro 2, plus il lui faut un bateau pourri pour le transporter parce qu'aucun bateau convenable ne veut transporter une cochonnerie pareille, plus vous avez des prix ridiculement bas. Et plus vous avez des prix ridiculement bas, plus vous pouvez transporter des produits qui n'ont strictement ou quasiment aucune valeur commerciale, que l'on évite ainsi de catégoriser comme déchets, donc avec une obligation d'élimination, puisque ça rapporte au lieu de coûter. Et plus vous pouvez effectivement organiser du transport à bas prix et favoriser la mondialisation, alors que si on était resté sur des concepts, je dirais, convenables et honnêtes, vous n'auriez pas cela et vous auriez au contraire un coût de transport plus élevé, intégrant la réalité du coût, c'est-à-dire le paiement des gens et l'entretien des navires, et intégrant les risques éventuels, c'est-à-dire avec de véritables assurances. Et c'est ce qu'ont fait les Américains chez eux, par contre. Et ce que nous n'avons pas fait chez nous. Donc ça, c'est pour le transport hydrocarbures. Mais je dirais que ce qu'on voit progressivement se réaliser, c'est la même chose pour des camions. Et j'attire l'attention d'Arnaud Montebourg, qui est député, sur cette question-là. Moi, je suis très inquiète de voir se développer des flottes de camions, alors pour certaines qui sont encore une fois des entreprises tout à fait convenables, il ne faut pas tout mélanger, mais d'autres qui ne le sont pas du tout, avec un système d'assurance qui est extrêmement peu satisfaisant, alors même que ces camions transportent des produits excessivement toxiques et dangereux. Qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un pet? C'est pas l'envoyeur qui est responsable, et c'est pas le receveur qui est responsable. C'est l'entreprise qui transporte. Puisqu'elle est devenue gardien, à condition d'avoir de la chose, à condition d'avoir été informée. Mais ça, on peut faire confiance à ceux qui vont fournir, ils vont être parfaitement informés en long, en large et en travers. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Ce qui veut dire qu'il n'y aura personne pour payer en cas d'accident d'un produit toxique. Donc vous voyez, tout ceci est quand même extrêmement lié à notre sujet. Et puis le troisième, parce que je ne veux pas être trop longue, le troisième domaine qui est le plus simple, bien entendu, c'est celui des trafics. Avec deux catégories, je dirais, de prédilection. La première, c'est les espèces protégées. Vous savez que nous avons une convention internationale qui s'appelle la CITES, qui protège un certain nombre d'animaux en voie de disparition. C'est un commerce extrêmement lucratif, très bien organisé, de l'ordre quand même de 20 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 8% du trafic de la drogue en valeur. Hein. La drogue, c'est 300 milliards à peu près. Donc 20 milliards, c'est pas négligeable. Donc, ça alimente le système. Trafic d'animaux, c'est quelque chose dont on parle peu, mais tout à fait rentable. Et puis, vous avez un deuxième point qui est peut-être... Alors, trafic d'animaux, c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est la biodiversité qui disparaît. Comme ce sont des espèces protégées, par définition, c'est des espèces dont nous avons peu d'exemplaires. Cela veut donc dire que nous sommes en train de faire disparaître un certain nombre d'animaux purement et simplement. Alors, il y a des gens qui peuvent être préoccupés par la question de biodiversité, d'autres qui s'en fichent. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais enfin, je trouve que sur le plan au moins moral, éthique, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et puis, le dernier volet plus grave, c'est celui des déchets toxiques. Le trafic des déchets toxiques est un trafic très bien développé, notamment des pays du Nord vers les pays du Sud. Pourquoi? Eh bien, parce que ça coûte très cher, effectivement, de traiter dans nos pays les déchets toxiques, et que c'est bien plus intéressant, bien sûr, de les détourner et de les envoyer ailleurs. Ailleurs où, c'est-à-dire dans les pays du Sud, où, et on retrouve les questions de corruption, bien entendu, où un certain nombre de gens sont très contents, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, de récupérer des produits toxiques, qui ne peuvent être traités et entreposés qu'avec des conditions de sécurité extrêmement importantes. C'est pour ça que ça coûte très cher chez nous, précisément, de les traiter, de les entreposer. Alors, cette question des déchets toxiques et nocifs est une question qui est très importante, qui a été traitée dans le cadre de la Commission des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que dans ces déchets toxiques, vous avez aussi des produits qui, en fait, se retrouvent dans la consommation humaine. Par exemple, dans des médicaments qui sont recyclés. Et par conséquent, la Commission des droits de l'homme s'en est emparée. Il y a un rapport qui date de 1999, d'une femme rapporteure, et très récemment, donc le 16 avril 2004, il y a la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui a adopté une résolution renouvelant le mandat de cette femme, et demandant d'inclure dans son rapport les renseignements sur les personnes tuées, mutilées, blessées dans les pays en développement du fait des mouvements de déversement illicite de produits et déchets toxiques et nocifs, sur la question des programmes frauduleux de recyclage des déchets, de transfert d'industrie, d'activités industrielles, techniques polluantes et tendances nouvelles dans ce domaine. C'est quelque chose qui se développe et qui intègre bien entendu tout ce qui est déchets radioactifs, naturellement. Donc, vous voyez, par ce biais-là, on rejoint également les questions liées au terrorisme et au bioterrorisme. Tout ça fait vraiment... Il faut bien comprendre que ça fait un tout. Alors, c'est toujours difficile d'attraper un sujet quand il est aussi multiforme. Alors, ce qui est quand même intéressant, et je terminerai là-dessus, puisque la Commission demandait qu'il y ait des études extrêmement précises sur ces programmes frauduleux de recyclage, eh bien, on votait pour tous les pays du Sud et on votait contre, en gros, tous les pays du Nord. Alors, en disant, ils peuvent pas dire on est contre, ils peuvent pas dire on est pour les transferts illicites de déchets. C'est un peu difficile à dire. Donc, le fait qu'ils étaient contre, c'est parce que c'était pas la Commission des droits de l'homme de s'en occuper. Je veux bien. Moi, ça m'est égal que ce soit la Commission des droits de l'homme ou que ce soit le Conseil de sécurité. À la limite, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un ne s'en occupe. Comme personne ne s'en occupe, pourquoi pas la Commission des droits de l'homme? Effectivement, ça pourrait être la Commission, ça pourrait être le programme des Nations Unies pour l'environnement, ou le programme des Nations Unies sur le développement, ou l'Organisation mondiale de la santé, qui sont également concernés. Il se trouve que ça ne les intéresse pas. Donc on a un organisme qui s'y intéresse, je dirais, c'est bien, et puis tant mieux. Donc voilà, je voulais simplement un peu vous sensibiliser sur le fait qu'il me semble important quand on aborde ces sujets de paradis fiscaux, d'argent sale, de montrer que, en dehors des effets que vous avez décrits, monsieur, sur la pauvreté et la vie des gens, en dehors des effets d'ordre fiscal qui ont été décrits, eh bien, il y a derrière aussi les effets sur la santé et sur la vie, au sens article 2, article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'intégrité physique des gens, hein, qui sont en cause. Parce que ça sert aussi à alimenter les trafics de toute nature, et ça sert aussi à détruire la vie, proprement dit. Et que tout ceci est complètement lié, c'est la raison pour laquelle, à mon sens, le combat contre les pollutions de toute nature et le combat contre la corruption, c'est exactement le même combat. Merci.